carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quels sont les doutes, les questions et les points de vue des académiciens sur la création d'aujourd'hui ? Comment se situe-t-il ? Désireux de faire partager au public du monde de l'art le fruit de leurs réflexions, le président de l'Académie des Beaux-Arts, François Bernard Michel, a organisé une journée d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts pendant laquelle 5 de ses confrères ont pris la parole pour lancer le débat. Canal Academy vous propose d'écouter la deuxième de ses interventions. Dans cette émission, vous pouvez entendre l'intervention du compositeur et musicologue François Bernard Mache, élu membre de l'Académie en 2002 au fauteuil de Yanis Xenakis. Et cette intervention est accompagnée de la présentation de l'académicien par Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts et modérateur des débats dans le cadre de cette journée, d'une journée d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts avec des représentants du monde de l'art. C'était une journée à l'Académie le 28 novembre 2012. Retrouvons Guy Boyer et François Bernard Mache en grande salle des séances à l'Institut de France. Le texte de François Bernard Mache s'intitule « L'œuvre d'art, une notion obsolète ?» Point d'interrogation. Sa communication sera ponctuée d'extraits musicaux de sa composition. Vous entendrez par ordre « Sopiana », une pièce de 1980, flûte, piano et oiseaux, « Kubatum », extrait de Kenjir, cinq chants d'amour sumériens pour mezzo, soprano et échantillonneur, une autre pièce qui s'intitule Andromède, une pièce de 1979, pour grand orchestre, trois pianos et double chœur. Vous entendrez Cassandra, pour orchestre et sons enregistrés. Et enfin, Plane, une pièce de 1994, à la mémoire de Witold Lutosławski, une pièce pour orchestre à cordes. Avec l'aimable autorisation des éditions Durand, Universal Music Publishing Classical.
Je vais appeler François Bernard Mache qui va prendre votre place. J'en profite pour compléter la présentation formidable de ce matin de Lydia Arambourg et de Robert Werner qui nous ont présenté à deux voix l'ensemble de tous les académiciens pour rappeler que vous avez été élève de Messiaen au conservatoire de 58 à 60, Grand Prix National de la Musique, Grand Prix de la Musique Symphonique de la SACEM, auteur de plus d'une centaine d'opus de 6 livres et vous êtes invité à des masterclass dans plus de 20 pays différents. Voilà une biographie bien complète pour quelqu'un qui va nous parler de l'œuvre d'art, une notion obsolète.
Avec un point d'interrogation après obsolète. Les réflexions dont je vais vous faire part concernent en majorité les arts visuels. Étant compositeur, je n'ai cependant pas d'autre légitimité pour en parler que celle de n'importe quel spectateur. Mais d'une part, beaucoup de plasticiens actuels n'en demandent pas plus. Et par ailleurs, la démarche artistique a peut-être un certain nombre de caractères communs, quel que soit le domaine auquel elle s'applique. Je suis né dans une société où ce qu'était une œuvre d'art semblait admis sans problème par tous. Elle se définissait selon 4 ou 5 critères sur lesquels régnait un apparent consensus. Tout d'abord, l'œuvre d'art ne servait à rien sinon à donner un plaisir de l'imaginaire chez son auteur comme parmi son public. C'était un jeu, mais un jeu réputé supérieur par sa richesse symbolique. En second lieu, l'œuvre d'art procédait d'une compétence exceptionnelle. L'artiste se distinguait des autres ouvriers par une virtuosité rare à laquelle peu pouvaient accéder et qui nécessitait une formation difficile. Son travail ne pouvait en aucun cas être confondu avec une production de la nature due au hasard. L'œuvre d'art s'évaluait selon son originalité. Elle devait surprendre au point d'infléchir les goûts, de modifier la sensibilité et même le cours de l'histoire. Baudelaire a écrit « Le beau est toujours bizarre ». Et il a écrit aussi « Créer un pensif ». Voilà le génie. L'œuvre d'art était une sorte de message inattendu, mais qui finissait par atteindre tout le monde. Étant originale, l'œuvre était unique par essence et la rareté garantissait sa valeur. Lorsque les techniques ou les circonstances permettaient sa multiplication ou sa réitération, imprimerie, concert, reproduction, son unicité se réfugiait dans une signature autographe, ou dans la limitation volontaire du nombre d'exemplaires, ou même dans la destruction des moules, des négatifs qui auraient permis une prolifération indéfinie. Enfin, l'œuvre d'art visait à être universelle et pérenne. Plus elle transcendait les limites de sa culture et de son époque d'origine, plus elle était considérée comme accomplie. Le chef-d'œuvre devait s'imposer à un public sans cesse élargi et à une postérité pour qui il prendrait valeur de classique. Voilà qu'au cours du XXe siècle, aucun de ces critères n'est resté indemne. Comme observateur et parfois comme complice, j'ai été impliqué avec beaucoup d'autres dans leur contestation ou dans leur rejet. La rupture, la provocation sont devenues l'expression habituelle et presque un devoir de l'innovation artistique.
Je vous avais promis que nous parlerions de rupture et d'innovation artistique. Nous y voilà, c'est le cœur du sujet.
C'en est un, il a plusieurs cœurs. Cette rupture et cette provocation découlaient, à vrai dire, d'une antique tradition. La naissance de l'artiste en tant qu'individu avait déjà suscité dans la Grèce antique le nihilisme qui, en 356 avant notre ère, avait poussé Hérostrate à brûler le temple d'Éphèse, une des sept merveilles du monde. Et sa provocation avait si bien réussi que malgré l'anonymat auquel on avait condamné ce criminel, cet artiste raté, son nom a mieux survécu que ceux des trois architectes, Théodore de Samos, Ctésiphon, Mutagénès. Sartre le souligne dans sa nouvelle du recueil Le Mur. Reste d'ailleurs à prouver que cette survie du nom est d'une importance comparable à celle d'une œuvre d'art. La rupture provocante s'est propagée de siècle en siècle avec plus ou moins d'intensité. Le Caravage, Monteverdi, l'ont illustré il y a 400 ans. Elle a affecté le sujet du poème avec Une charogne de Baudelaire. La représentation des formes dans les dernières toiles de Turner. Les conventions sociales avec Le déjeuner sur l'herbe de Manet ou certaines frontières habituelles dans les collages de Victor Hugo. La tonalité en musique apparaissait chez Liszt dès 1885, avec sa bagatelle sans tonalité, et chez Abel Decaux avec son clair de lune en 1900, bien avant d'être érigé en schisteme par Schoenberg. En peinture, le sujet, et même le jeu des couleurs, étaient également récusés au cours du même siècle. Permettez-moi de préciser quelques repères. Non pas parce que j'ai le culte de l'histoire, mais vous le verrez bientôt, pour un objectif tout à fait opposé. En 1843, Bertal, dans la revue L'Illustration, présente le dessin d'un tableau noir constellé de points blancs avec pour légende « Vue de la Hougue, effet de nuit » par M. Jean-Louis Petit. La même année, Kierkegaard écrit dans un de ses diaplasmata « Le résultat de ma vie est nul ». C'est un vague sentiment, une grisaille. Cela ressemble au tableau de cet artiste qui, pour figurer le passage de la mer Rouge par les Hébreux, recouvrit tout le mur de rouge, sous prétexte que les Hébreux étaient passés et les Égyptiens noyés. En 1882, année où meurt Bertal, est exposée au Salon des Incohérents une toile de Paul Billot, intitulée « Combat de nègres dans une cave pendant la nuit ». La toile est entièrement noire, encadrée d'or. Ce gag amuse Alphonse Allais, qu'il reprend à son compte en exposant l'année suivante deux cartons. Le premier est une feuille de Bristol blanc, intitulée « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige ». Le second est tout bleu, et puis en 1885, il récidive en rouge cette fois, avec « Récolte de la tomate sur les bords de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques ». En 1887, il rassemble ses œuvres monochromes, parmi lesquelles figure une partition qui est une page vierge de trois portées, chacune de trois mesures, intitulée « Marche funèbre pour les funérailles d'un grand homme sourd ». Il explique que si elle est vierge, c'est parce que les grandes douleurs sont muettes. Beaucoup d'autres manifestations parisiennes d'humour absurde accompagnent pendant une décennie, 1882-1892, cette mode de l'incohérence. Eugène Bataille expose par exemple en 1887 une Joconde fumant la pipe. Quelle différence y a-t-il entre les monochromes du XIXe siècle et ceux d'Yves Klein à partir de 1957? On est tenté de répondre d'abord 72 ou 114 ans entre la toile vide de Billot en 1882 et le carré blanc sur fond blanc de Malevitch, 36 ans. Entre la Joconde fumeuse de Bataille et celle à moustache de Duchamp, 32 ans. Faut-il alors donner raison à Gérard de Nerval lorsqu'il disait « Le premier qui a comparé une femme à une rose était un poète et le second un imbécile ». Les choses sont plus complexes et ne peuvent être ramenées ni à la répétition d'une plaisanterie consacrée, ni à une surenchère induite par l'individualisme de l'artiste. Une première différence essentielle entre le XIXe et le XXe siècle est l'humeur qui accompagne ces propositions esthétiques. Les plus anciennes sont d'un humour généralement très joyeux, même si celui de Kierkegaard fait un peu exception. Tandis que celles du XXe siècle sont de plus en plus sérieuses, voire désespérées. Dada s'amuse encore un peu dans les années 20, mais dans l'art qui aujourd'hui se prétend conceptuel, c'est beaucoup plus rare. Les futuristes italiens ont exalté l'innovation comme la valeur artistique suprême, souvent avec plus de sérieux dans l'audace prophétique que de talent. Pour Marinetti, en 1913, les bruits de la guerre moderne composent de superbes symphonies. Stockhausen, près d'un siècle plus tard, a osé qualifier le pire attentat du 11 septembre 2001 d'exceptionnelle œuvre d'art. Cela nous ramène aux définitions que j'ai proposées de ce terme. Les provocations, les ruptures, sont-elles l'outil grâce auquel l'histoire de l'art progresse par des séismes successifs, ou visent-elles à annihiler l'art en le dénonçant comme une illusion pieuse ou néfaste ? Duchamp est-il l'héritier des Rostrates ? Le premier critère évoqué de l'art comme un jeu suprême est directement concerné par certaines manifestations, N'importe quoi peut servir de jouet. Mais finalement, on peut ne plus avoir envie de jouer du tout. La déclaration de Lautréamont, la poésie doit être faite par tous, non par un. Elle peut au choix se lire comme un magnifique élan collectif qui fera accéder chacun au talent artistique, ou comme une dévaluation radicale de l'art. Duchamp avait ironiquement bien prévu les deux démarches, d'une part en faisant semblant de sacraliser la banalité d'un porte-bouteille, mais aussi, on l'oublie parfois, en préconisant le ready-made inversé, qui consisterait par exemple à utiliser un Rembrandt comme planche à repasser. Il reste que le répertoire des gestes disponibles n'est peut-être pas plus infini que celui des formes, et que la plupart des actions qui se veulent aujourd'hui transgressives ont un air de déjà-vu assez décevant. Après Manzoni et ses boîtes de merda d'artiste de 1961, il est plus difficile de remettre sur le marché de l'art des gestes qui le tournent aussi bien en dérision. Ce qui manque généralement à celle des manifestations de l'art dit conceptuel qui s'inscrivent à la suite des gestes à la Manzoni, plus encore qu'un vrai talent philosophique supposé remplacer l'imagination plastique, c'est l'humour ou la vitalité. Le constat aboutit dans plusieurs cas à une résignation réactionnaire. La plupart des aspects du postmodernisme qui s'est développé à partir des années 1980 sont majoritairement, surtout en musique, des retours, désireux de gommer les illusions du progressisme, de la fuite en avant du dernier siècle, et pour cela, de renouer avec des recettes encore plus obsolètes que le nouvel académisme des formalistes post-sériels ou de beaucoup d'installateurs héritiers infidèles de Duchamp. Pourquoi infidèle ? Parce que le geste du ready-made perd l'essentiel de son sens en se fétichisant. Si la création d'un poncif peut être une marque de génie, son usage, lui, ne peut qu'être une routine artisanale ou la preuve d'imbécilité dénoncée par Nerval. D'où sans doute la contestation assez généralisée de deux autres critères que j'avais cru observer à propos de l'œuvre d'art, la compétence de l'artiste et sa radicale différence avec l'artisan. Le carré noir sur fond blanc de Malevitch en 1915 et Fontaine, l'urinoir signé Richard Mutt par Duchamp en 1917, n'ont pu rafraîchir brutalement le regard et la sensibilité qu'une seule fois. En passant du statut de geste à celui d'œuvre et en cédant à l'impératif commercial de la signature, ils sont inévitablement rentrés dans le jeu qu'ils entendaient ridiculiser ou dénoncer. En 1964, Duchamp a reconstitué, en une série d'exemplaires signés de son vrai nom et numérotés, le prototype perdu. Il se conformait ainsi finalement aux lois ordinaires du commerce d'art. Le dernier exemplaire s'en est vendu en 1999 pour 1,6 million d'euros, soit plus de 2 millions de dollars. Warhol, Armand et bien d'autres n'avaient pas hésité à se soumettre à ce jeu ambigu de récupération réciproque depuis quelques années. Beaucoup plus fidèle au sens profond du « ready-made » a sans doute été l'action du 25 août 1993 au Carré d'art de Nîmes. Un certain Pierre Pinoncelli, provocateur obstiné, a fait d'un de ses urinoirs l'usage initialement prévu, conclu par un violent coup de marteau. Soumis à un procès en correctionnel, il a fait valoir, je cite, qu'il s'agissait d'achever l'œuvre de Duchamp. En réponse à la provocation inhérente à la présentation de ce genre d'objet trivial dans un musée, y uriner termine l'œuvre et lui donne sa pleine qualification. Il a néanmoins été sanctionné par un mois de prison avec sursis et 286 000 francs de dommages et intérêts. Cela ne l'a pas dissuadé de récidiver le 4 janvier 2006 au centre Georges Pompidou, qui présentait lui aussi une rétrospective Dada. Lors du procès, un avocat général censé a estimé la valeur de l'objet détérioré à 83 euros, sa valeur de remplacement sur les catalogues usuels d'objets sanitaires. Le musée d'art moderne, lui, réclamait 2,8 millions d'euros, correspondant aux dernières transactions concernant les pièces de cette série. Le verdict a été de 3 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 214 000 euros de dommages et intérêts, ramené cependant en appel à 14 532. Le tribunal, qui en 1857 avait condamné les Fleurs du Mal de Baudelaire, l'avait fait au nom de la morale bourgeoise. Celui de 1993 et celui de 2006 ont condamné le happening de Pinoncelli au nom du commerce d'art. Dans les deux cas, une même incompréhension de ce qu'est réellement l'art, un questionnement, une aventure, un jeu, et non seulement un objet de jouissance, a été lourdement affirmée au nom de la société.
Peut-être faudrait-il parler aussi du respect de l'œuvre d'art. Lorsqu'il y a eu destruction de cette œuvre d'art, ce n'était pas simplement une question du marché de l'art. C'est le marché de l'art qui a fixé le prix de la sanction, mais c'était aussi la question du respect de l'œuvre conservée dans le musée en question.
La destruction considérait que ce n'était pas une œuvre et que le geste de Duchamp avait justement été fait pour critiquer et dénoncer la notion d'œuvre d'art. Mmh. L'aporie de l'immédiate récupération marchande qui s'applique à la dénonciation elle-même du marché de l'art a condamné beaucoup d'artistes purs à s'évader vers des formes qu'ils pensaient invendables, bien que coûteuses, land art, happenings, etc. On les a tout de même récupérés en vendant les traces photographiques de leurs gestes. Lorsqu'il s'agit, comme chez Yves Klein, de vendre des espaces immatériels contre des feuilles d'or qu'on va ensuite jeter à la Seine, sous l'œil des photographes. Il s'agit encore d'un acte commercial, mais plus subtil dans sa parodie poétique du désintéressement. Même désœuvrée, l'œuvre d'art ressurgit toujours. Le quatrième critère de l'œuvre d'art généralement reconnu était son unicité. Elle devait être un jeu non seulement symbolique, mais aussi original, donc essentiellement rare. Dès la Renaissance, les techniques d'impression étaient venues troubler ces deux valeurs pour le livre et la gravure. Pour que le symbole soit déchiffrable, il faut qu'il corresponde à un imaginaire largement partagé. L'individualisme de l'artiste, garant de son originalité, est entré en contradiction avec un partage des valeurs de plus en plus problématique. La prise de conscience de cette contradiction a conduit certains au cynisme qui acceptent que la seule valeur de l'œuvre d'art réside dans une cote commerciale, aussi arbitraire que la convention qui inscrit sur un billet de banque 10 ou 1000 unités monétaires. L'accumulation de produits stéréotypés aboutit à effacer toute valeur. Les 10 000 chansons piratées que peut accumuler un téléphone portable peuvent-elles être assimilées à la phonothèque d'un mélomane ? Cette banalisation de l'œuvre d'art comme ersatz illusoire d'une démocratisation entraîne plusieurs conséquences importantes. N'étant plus le produit d'une technique exceptionnelle, ni le résultat d'une quête passionnée, n'importe quel objet brut peut en tenir lieu. L'originalité n'est plus en amont, mais en aval. C'est l'œil ou l'oreille du public qui crée l'œuvre. Mais où ce regard, cette écoute, ont-ils été formés ? Rimbaud, un des premiers, déclarait dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Il aimait les peintures idiotes. Dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires. la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Mais la sensibilité, l'oreille de Rimbaud et l'œil de Rimbaud étaient ceux d'un élève surdoué qui pouvait se permettre de chercher ailleurs les aliments de son génie. Il ne légitime nullement l'idée que n'importe qui peut faire n'importe quoi et ce sera de l'art si on le décide. Duchamp ou John Cage, à défaut d'être de grands créateurs, étaient au moins de vives intelligences. On peut douter que leurs épigones aient eu raison de considérer comme une leçon, ce qui chez eux était plutôt des gestes d'humeur et d'humour, de colère, parfois de dépit. L'artiste du XXIe siècle est dans une situation donc particulièrement difficile. D'une part, les censures religieuses ou morales ont largement disparu dans les pays se réclamant de la démocratie. Mais elles ont été souvent remplacées par des objectifs commerciaux qui peuvent encore plus contredire ces valeurs authentiques et qui, plus généralement, tendent à pervertir la démocratie elle-même en réduisant les pouvoirs politiques à de pures apparences, discrètement maintenues sous tutelle. Lorsque l'artiste serait prêt à s'accommoder bon gré mal gré de ses contraintes, comme autrefois ses prédécesseurs pour les exigences du prince, il se heurte au phénomène nouveau de la production de masse, de produits culturels, entre guillemets, qui n'ont que de vagues ressemblances avec des œuvres artisanales ou artistiques et qui accélèrent la disparition des arts populaires. Le public est convié à des transes collectives, à des visites guidées, à des achats, mais presque plus jamais à des actes artistiques. On condescend difficilement d'ailleurs à lui donner à l'école une esquisse de formation en histoire de l'art, mais en aucun cas une formation artistique. La pauvreté d'imagination et le conformisme des conventions sont les nouvelles données prometteuses du succès commercial. Une connaissance trop intime, vécue des arts dans le public, le compromettrait sans doute. La transgression est devenue une banale exigence publicitaire et l'impératif d'un nouvel académisme. De plus, elle s'avère de plus en plus difficile à satisfaire dans une société très largement permissive. Mais il est vrai que les succès les plus commerciaux sont souvent des déclencheurs d'émotions profondes. Ils ne reposent même que sur ces émotions, comme si leur assouvissement impliquait la disqualification puis l'élimination de toute inquiétude authentiquement esthétique. Le kitsch, après avoir été au XXe siècle l'art des dictatures totalitaires, est devenu l'art officiel des démocraties dites libérales. Télécommandés par des marchands, des peluches géantes et dérisoires ont pu récemment trôner sous les ors du château de Versailles. Les décibels de certains concerts rock sonnent un peu comme des bruits de bottes. La musique pourrait cependant paraître relativement épargnée, dispensée qu'elle est des enjeux importants du commerce dont surtout les arts visuels font l'objet. Mais l'industrie de la variété garde, malgré le piratage généralisé et parfois sanctifié, un pouvoir encore considérable dont les artistes sont loin d'être les principaux bénéficiaires et dont ils ne sont même pas les vrais fournisseurs. Dans le domaine des musiques industrielles, il n'y a plus beaucoup d'œuvres d'art, mais il y a une foule d'artistes, entre guillemets, musiciens, danseurs, acteurs, récitants, arrangeurs, rédacteurs, praticiens, tous revendiquent ce statut et se considèrent parfois avec quelques raisons comme supérieurs, malgré l'anonymat, à celui qui signe ou qu'on met sur le devant de la scène. Sans leur micro, et en amont les techniciens des studios, la plupart des chanteurs de variété seraient aphones, comme je risque de l'être tout à l'heure. Malgré les minoritaires de la musique classique, qui représentent à peine 10% du marché et moins de 1% de cette part pour les compositeurs vivants, ou faut-il dire survivants, la coopération entre instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs se passe en général assez bien. Mais la hiérarchie esthétique est très différente de celle des rétributions. Le compositeur gagne souvent moins que les copistes ou les musiciens, qui eux-mêmes gagnent beaucoup moins que le chef d'orchestre. Autre problème annexe, qui concerne tous les arts à des degrés divers et qui ressortit à la distinction ancienne entre artisanat et art, l'opposition entre amateurs et professionnels. Elle a été ouvertement contestée, en particulier par Dubuffet et l'art brut à partir de 1945. Dubuffet déclarait joliment « Je suis un peintre du dimanche pour qui tous les jours sont des dimanches. » On dit volontiers de même que le professionnel est un amateur qui ne fait que ça. Si un véritable art populaire de non-professionnels existaient encore, on ne pourrait qu'approuver ces formules. Leur humour cache et révèle à la fois que pour exercer pleinement l'amour profond d'un amateur pour son art, il faut nécessairement qu'il devienne professionnel, à moins d'avoir une fortune suffisante pour se tenir à l'écart du jeu social et devenir son propre mécène. Au contraire, la plupart des artistes à succès, surtout en musique, affirment hautement leur réelle ignorance dans l'espoir secret de la transformer en un indice de génie purement spontané. Toute culture se définit par un équilibre spécifique entre innovation et transmission. Après avoir beaucoup innové sans bien réussir à transmettre, notre époque, par un excès inverse, se consacre à la retransmission indéfinie des mêmes recettes. Même certaines productions normalement vouées à l'éphémère de la mode sont affectées par cette ambiance de fin de jeu ou de bas empire. D'énormes compilations diffusent sans cesse les répertoires encyclopédiques du passé, récent ou ancien, un peu comme des inventaires après faillite. Il y a cependant peut-être une troisième voie pour sortir de ces impasses. C'est elle que j'essaie de rouvrir en me référant à l'ensemble des siècles et des cultures dont on peut maintenant se faire une image pour en extraire des universaux transhistoriques. Et c'est là que j'aurais tendance à renvoyer dos à dos les modernistes et les classiques. C'est que le poids de l'histoire a changé. Et c'est à cette perspective que je vais sommairement me référer maintenant. Les problèmes et les contradictions que j'ai évoquées se rattachent en effet tous à une vision de l'histoire qui a été jusqu'au siècle dernier à la base des choix culturels de tradition européenne et de son idéal de modernité. Depuis les révolutions du XVIIIe siècle et a fortiori depuis Hegel et Marx, l'histoire a été vécue comme la dimension fondamentale de toute activité humaine. Le souci dominant de nombreux artistes, par-delà même leur banal désir de laisser une trace, a été d'obtenir un verdict favorable en passant devant son tribunal suprême. Les phénomènes de mode sont une caricature de cette hypertrophie de l'histoire, et la folle vitesse avec laquelle la compétition commerciale exalte et dévalorise simultanément l'innovation aboutit à un immense gaspillage qui tente à entraîner tout dans son tourbillon. Une conséquence toute différente de la conscience historique est apparue lorsque l'universalisme naïf hérité du siècle des Lumières et celui plus agressif de l'ère coloniale ont fait place à une découverte des relativités culturelles. Cette découverte semble avoir eu deux prolongements opposés. D'abord, la réaffirmation d'une essence idéale des activités artistiques, la recherche exaltée du beau visant probablement à assurer à l'Europe une suprématie analogue à celle qu'elle manifestait dans ses inventions techniques. Mais c'est peut-être aussi ce sentiment de relativité qui a légitimé un second credo opposé. La modernité extrême, prise comme premier impératif social et culturel du XXe siècle. puisque l'on découvrait la coexistence de différents systèmes de valeurs culturelles. Qu'est-ce qui empêchait d'en créer d'autres de toutes pièces ? On ne croyait plus aussi fermement dans la supériorité unique de la civilisation occidentale, malgré ses succès universels. Les écrits de Fraser ou de Segalen révélaient des perspectives insoupçonnées sur ce qui faisait tantôt différer et tantôt se ressembler tellement de cultures. Mais le goût de l'exploration et de l'inconnu, qui avait poussé les Européens hors de chez eux dès la fin du XVe siècle, pouvait se perpétuer sans pour autant écraser les autres. Il suffisait d'appliquer la même ouverture inventive à la création de nouveaux ensembles de valeurs, librement, comme Debussy et Gauguin l'ont fait après leur contact avec l'Asie, ou avec des a priori radicaux, comme Schoenberg ou Kandinsky. Si toutes les cultures pouvaient légitimement prétendre à une reconnaissance, n'importe quel nouveau système de valeurs suffisamment riche et cohérent pouvait soutenir la même revendication. La référence à des cultures encore provisoirement exotiques a contribué à déclencher l'explosion de créativité audacieuse qui a marqué les années précédant de peu la Première Guerre mondiale. Les collections d'art « primitifs » entre guillemets, amorcées par Rodin, Picasso ou Nolde, venaient illustrer à la fois cette prise en considération de l'autre et, à son contact, une nouvelle légitimation des innovations les plus radicales. La suite n'a guère fait que développer ou répéter les principaux gestes esthétiques de ces débuts du XXe siècle, marqués par exemple par le renoncement à la syntaxe tonale en musique, à la figuration dans les arts plastiques, à l'unité stylistique, et fréquemment, sous ces révolutions symboliques, par l'espoir ou la hantise d'une révolution sociale. Les années post-romantiques refusaient la domination de l'industrie en prenant l'esthétique comme refuge idéal ou symbolique. Le XXe siècle, au contraire, a décidé de chercher à quel prix il pourrait l'affronter ou l'exploiter. Après un entre-deux-guerres marqué par cette hésitation sur les stratégies, progressisme révolutionnaire d'un Varèse ou subversion néoclassique d'un Stravinsky, la fin de la Seconde Guerre mondiale a vu les nouvelles technologies électroacoustiques et informatiques susciter deux nouveautés importantes, des œuvres de synthèse sonore et visuelle, tandis que s'étendait à l'infini la disponibilité de toutes les musiques et des répertoires d'images fixes ou animées. Une des conséquences de l'uniformisation des cultures est, ou va être, une relative stagnation. Un des moyens d'échapper à cette pseudo-fin de l'histoire est de se soucier beaucoup moins des dimensions historiques et plutôt d'inventorier précisément ce qui n'est pas de leur mouvance. L'intercompréhension des cultures conduit à identifier d'abord ce qu'elles ont en partage pour mieux apprécier ce que chacune a construit d'original sur les grands lieux communs. En arrière-plan, la peur d'une monotonie généralisée dont l'industrie musicale donne malheureusement une fréquente illustration. J'ai publié deux livres et de nombreuses œuvres pour tester l'hypothèse d'une pensée musicale naturelle. Je ne saurais donc la développer ici. Il se trouve qu'un important courant intellectuel parmi des anthropologues, des éthologistes et des philosophes converge vers cette remise en question d'un privilège unique de l'espèce humaine. Il se penche avec de bonnes raisons sur les origines naturelles de la culture et met l'accent sur un ancrage naturel trop méconnu, ce qui ne fait que rendre plus remarquable tout ce qui donne l'impression et parfois l'illusion de s'en libérer. Une évaluation sérieuse de cette liberté n'est possible que si l'on interprète sans préjugés socio-biologiques la présence universelle de certains archétypes et si on en tient un certain compte. Comme toute musique repose sur un équilibre original entre des formes temporelles identifiables et des variations appréciables sur ces formes, il peut être utile et libérateur de faire sortir la composition du seul champ social ou historique qui tendrait à figer dans des normes ou des limites ce jeu du même et de l'autre. Une définition universelle de l'artiste et de l'œuvre d'art ne peut probablement pas s'imposer, mais l'inquiétude exprimée à travers des éléments symboliques, le goût d'une aventure à la fois spirituelle et sensorielle, la puissance transcendante de l'imaginaire sont autant de traits qui trouvent en tout lieu et à toutes époques à s'illustrer. la table rase historique que tout un courant des arts du XXe siècle a rêvé d'opérer pour se livrer à des innovations absolues est peut-être une utopie inutile. Si notre psychisme nous fournit déjà spontanément certaines données rudimentaires antérieures à toute routine, et si la sollicitation esthétique, loin d'être d'emblée analogue à un langage, trouve une de ses sources dans les profondeurs animales de ce psychisme, tout le problème est alors de faire la différence entre un archétype et un cliché, et d'innover avec l'archétype plutôt que contre lui. Mais ce serait là le sujet d'une ou plusieurs autres communications. L'œuvre d'art a pu être contestée au point d'être évincée au profit de manifestations éphémères, où même la modernité était absorbée par la mode, au point que l'histoire, si obsédante au cours des deux derniers siècles, a perdu toute valeur comme dimension et comme référence. L'œuvre d'art subsiste cependant comme procédant d'un jeu nécessaire et universel et comme une interrogation émergeant de notre patrimoine génétique. Sans doute, comme l'a reconnu Malraux, l'intemporel non plus n'est pas éternel. Mais l'œuvre d'art est tout de même un des rares moyens, et peut-être le plus fiable, dont dispose l'homme pour incarner ses questionnements et ses tentatives de réponse.
Merci de cette présentation très complète de ces points de vue que je ne partage pas forcément, bien évidemment. C'est donc là le lieu du débat. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Je suis d'accord avec vous avec plein de moments et puis d'autres où mes interprétations ou ma position me conduit un petit peu ailleurs. Donc nous aurons l'occasion d'en débattre avec toute la salle tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec vous sur cette différence dont vous parliez entre l'humour du 19e et cette prise de tête ou ce sérieux du 20e. En revanche, dire que la deuxième moitié du 20e siècle n'a fait que répéter... C'est à peu près ça, les mots employés.
Non, pas répéter.
Les ruptures de la première moitié du 20e...
Prendre ça comme un impératif et ne pas se sentir libre vis-à-vis d'un geste comme celui de Duchamp qui, à son époque, avait un sens et qui, ensuite, n'en a pas eu autant.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre la communication de François-Bernard Mache intitulée « L'œuvre d'art, une notion obsolète ?» Cette communication a été prononcée le 28 novembre 2012 dans le cadre d'une journée à l'Académie des Beaux-Arts. Écoutez les autres interventions de ses confrères et les débats qui ont suivi, menés par Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts, en tapant sur le moteur de recherche de Canal Académie les noms de Claude Abeille pour la sculpture, François Chalin pour l'architecture, Bernard Perrine pour la photographie et Pierre Caron pour la peinture.